Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pour le meilleur beat, vous écoutez CJMD 96.9.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bonjour tout le monde, on est avec Kevin Pépin de KP Management. Salut Kevin, comment ça va?
Salut Jeff, ça va bien toi?
Ça va super bien. On start une nouvelle saison, une nouvelle chronique où ce que tu viens de nous parler de sujets très pointus sur le milieu de l'immobilier. Tu vas devenir notre star pour notre prochaine saison.
La référence
de nos prochaines chroniques.
Chronique, yes.
J'avais deux mots en même temps. Puis... tu vas venir nous jaser de différents sujets, puis c'est très niché comme information, fait qu'il va falloir réécouter les podcasts pour être sûr de bien saisir toute l'information que tu vas nous donner.
On l'écoute avec un café dans le nez, idéalement, là, pour être prêt.
Ben, en fait, on va essayer de vulgariser le plus possible les notions. Puis effectivement, on a vraiment ciblé des sujets qui, selon nous, vont vraiment créer de la valeur pour l'audience, là.
Puis le premier sujet qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va parler?
On va parler des typologies de l'immobilier commercial. Donc, souvent, en immobilier, quand on va acheter une bâtisse, quand il va y avoir un locataire qui va être une entreprise, bien, on va dire « Ah, c'est un immeuble commercial. » Donc, c'est correct de le mentionner, mais si on revient vraiment à la littérature sur l'investissement immobilier, la notion de faire de l'immobilier commercial, c'est beaucoup plus que juste d'avoir une entreprise comme locataire. Donc, on va vraiment analyser chacun des segments, en fait, puis en quoi ça consiste faire de l'immobilier commercial. Fait que, par exemple, une des premières deux distinctions en immobilier commercial, donc, tout simplement d'acheter un immeuble qui, peu importe le type de locataire, eh bien, c'est une stratégie pour avoir des flux de trésorerie récurrents. Donc, on fait de l'immobilier commercial, on achète un actif qui est producteur de trésorerie, ou bien on va développer un actif et on va le revendre. Donc, c'est vraiment les deux distinctions qu'il faut faire en immobilier commercial. Et ensuite de ça, quand on regarde simplement pour la partie producteur de flux de trésorerie, donc j'achète un bâtiment qui va me générer des loyers à tous les mois, eh bien là, il y a différentes segmentations. Donc, on a les espaces pour bureaux, on a les espaces pour commerce de détail, espaces industriels, on a tout ce qui est habitation collective, donc ce qu'on appelle le multilogement. On a les résidences pour personnes âgées et encore plus de niches, on a les hôtels. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à regarder chacun de ces sous-segments-là, eh bien, il y a différentes classifications qui rentrent en ligne de compte. Donc, autant dans l'industriel, dans l'espace à bureau, commerce de détail, même habitation. Donc, il y a différentes manières qu'on peut classer ces types de segments-là.
Selon la qualité des locataires, par exemple?
Exactement ça. Donc, tu as la qualité des locataires, tu as la localisation.
Le type de service offert, sûrement aussi.
En plein ça, le type de service offert. C'est quoi la structure, l'architecture? Tu sais, est-ce que c'est un plus petit bâtiment? Est-ce que c'est un grand bâtiment? Est-ce qu'il est fait en béton, en acier, en bois? Bref, on va vraiment regarder sur chacun des segments qu'est-ce qui caractérise, par exemple, dans la classe habitation collective, qu'est-ce qui caractérise une petite densité, moyenne densité versus haute densité? Fait que, par exemple, si on commence par les espaces à bureaux, ben tu as trois types de classes de bâtiments. Donc, tu as les classes, tu as la classe A, B et C. Et encore là, quand que tu rentres dans ces classes-là, tu pourrais avoir une autre sous-classe, comme exemple dans la classe A, tu pourrais avoir du triple A, du double A et du simple A, dépendamment de la qualité du bâtiment et de quand est-ce qu'il a été bâti ou de la qualité des locataires. Mais si on s'en tient seulement à classe A, B et C, ce qui les différencie, c'est principalement où est-ce que le bâtiment est situé. Donc, est-ce qu'il est situé dans un lieu où est-ce qu'il y a une activité économique qui est concentrée, ou c'est en périphérie? Et là encore, là, toute cette notion-là de marché va être prise en compte pour ce critère-là. Ensuite de ça, tu as la qualité architecturale. Donc, est-ce que le bâtiment, justement, présente une architecture qui est vraiment unique? Est-ce qu'il y a une technologie qui est dans le bâtiment qui est vraiment récente, par exemple? Tu vas retrouver aussi dans la classe A, tu vas avoir principalement des prix de loyer qui sont beaucoup plus élevés. Donc, ça va être, étant donné que tu t'adresses à des locataires de plus grande qualité, puis à des espaces de plus grande qualité avec des services, bien évidemment, tu vas avoir des prix de loyer beaucoup plus élevés.
Et plus garantis, j'imagine, nécessairement, plus assurés comme...
Exactement ça. Donc, la notion de classification revient à c'est quoi le niveau de certitude d'avoir mes flux de trésorerie? Ouais. Quel est mon niveau de certitude d'encaisser réellement mes loyers? Et c'est quoi le niveau de certitude aussi au niveau de la stabilité de ces revenus-là? Parce que, tu sais, si on compare, par exemple... à un bâtiment où est-ce que t'as le gouvernement versus où est-ce que t'aurais une friperie. Parce que j'ai rien contre les friperies, mais tu sais, le...
T'as-tu quelque chose contre le gouvernement?
J'ai rien non plus contre le gouvernement. Mais ça reste que, tu sais, le niveau de certitude d'encaisser les revenus sur ce type de locataire-là, sur une période de temps, ne sera pas pareil. Donc, le gouvernement, ben, t'es sûr de te faire payer, évidemment. Mm-hmm. Tandis qu'une friperie, ben, si elle fait faillite, ben, t'as pas vraiment de recours, ou dépendamment des clauses que t'as dans ton bail commercial, mais ça reste que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, c'est pour la classe A. Et quand on arrive ensuite pour la classe B, bien là, c'est encore les mêmes principes. On va regarder vraiment où est-ce que le bâtiment est situé, c'est quoi le type de finition du bâtiment, le secteur dans lequel le bâtiment est. Donc, est-ce que c'est principalement un secteur avec des bâtiments de qualité similaire ou sont plus hétérogènes? Et ça va être une qualité de locataire qui va être variée. Et les classes C, bien là, c'est vraiment dans des secteurs qui peuvent présenter plus de problématiques économiques, ou est-ce que même peut-être une perspective défavorable au niveau politique et économique. Donc, secteur avec potentiel de décroissance, on a des prix de loyer qui sont vraiment en dessous du marché.
Puis on a une zone peut-être plus à risque ou un type de commerce peut-être plus à risque aussi.
Exactement, ouais, ça.
C'est parce qu'on comprend que les critères, dans le fond, sont macro et micro. C'est qu'on regarde le marché puis tout ce qui est plus général, mais on regarde aussi le locataire en question, son activité, son commerce, ses états financiers. J'imagine que tout ça est pris en compte. C'est dans un très bon secteur, mais que tu es une friperie, par exemple,
ouais,
versus tu es dans un moins bon secteur, mais tu es le gouvernement, tu as quand même...
Exactement.
Garantie.
C'est vraiment un ensemble de facteurs. Ça. C'est jamais un seul facteur qui va tout venir déterminer. Et moi, je vous réfère à, dans le fond, Beaumont Canada, qui était une gestion, qui ont fait des critères, en fait, qui sont super intéressants. Donc, c'est accessible sur le web. Donc, eux, la catégorie pour classifier les espaces à bureau entre A, B et C, c'est sur l'âge, la localisation et les accès menant à ce bâtiment-là, la construction et les architectures, le type de... quelle est la compagnie de gestion qui s'en occupe? Les types de locataires, le taux de location, le système de l'immeuble, est-ce qu'il y a des ascenseurs, le niveau de sécurité, l'environnement, les stationnements et les services à faire. Donc, il y a un document qui est accessible. Faites juste marquer catégorie de bâtiments pour les espaces à bureau de Beaumont Canada. Et vous allez tout avoir un beau document qui a été préparé par eux qui vient vraiment vous aider à classifier le type de bâtiment.
C'est le gestionnaire, moi, que je retiens, qui est quand même pertinent, qui est intéressant. Dans le fond, ça, on prétend que ça assure une meilleure... disponibilité des flux si tu as un gestionnaire en place qui va aller collecter.
Exactement. Ben oui, si tu as un meilleur gestionnaire pour bien gérer les opérations, et ça vient encore là sécuriser l'encaisse des flux de trésorerie. Et évidemment, ça devient une game. Je veux dire, l'immobilier commence à être une game de finances, d'investissement. Donc, c'est une question de risque-rendement. Donc, on veut atténuer le risque possible, on veut maximiser notre rendement, on veut s'assurer d'avoir le plus de certitude sur l'encaisse de nos revenus pour respecter nos obligations puis être capable.
Ça veut dire que dans cette optique-là, un bâtiment pourrait bouger de classe A à B.
Oui, avec le temps,
ou avec la personne en place ou le
exactement
type de locataire. C'est pas un saut qu'on met sur la bâtisse.
Non, ben, c'est pas nécessairement un saut, mais c'est vraiment plusieurs critères qui vont vraiment déterminer quel type de classe. Exact. Et si on passe à une autre catégorie, donc on pourrait, par exemple, aller catégorie commerce de détail. Donc, commerce de détail, il y a justement... donc, c'est un organisme international européen. Donc, c'est le ICSC, International Council of Shopping Center, qui, eux, viennent vraiment établir quels sont tous les types de locataires commerciaux, les types de centres commerciaux qu'on peut avoir. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le commerce de détail, tu as vraiment... une notion de base qui est la notion d'avoir un type de locataire ancré ou non ancré. Dans le fond, la notion de ancré, c'est-à-dire que c'est un locataire qui va attirer beaucoup, beaucoup de visiteurs. Donc, c'est un locataire, par exemple, comme Walmart, Costco, Home Depot, bref, toutes les grandes chaînes vont être des types de locataires ancrés puisqu'ils attirent beaucoup d'achalandage. Donc, ils en font bénéficier les autres commerces qui, eux, sont considérés comme non ancrés. Et quand on regarde justement les CSC, la manière qu'ils ont catégorisé ces bâtiments-là, donc en premier lieu, tu as les centres commerciaux traditionnels. Et là, tu as 5 sous-catégories. Donc, commodité, quartier, communauté, régionale et super-régionale, donc les super grands centres d'achat. Évidemment, chacun a des caractéristiques. On n'a pas le temps dans le podcast dépasser, mais il y a une superficie. Il y a aussi des différents types de stratégies. Donc, on va essayer de créer des synergies à travers les commerces. Donc, on va mettre un ancré et des types de non-ancrés sur, par exemple, les services de base ou bien d'autres types de magasins.
Ça a bougé, ça, dans les dernières années, les façons de faire à ce niveau-là, les power centers puis les façons de dynamiser ça, vu que c'est une industrie qui est mise à l'épreuve. Là. Fait que j'imagine que ça change aussi un peu la littérature qui suit. Là.
Ben oui, clairement, en fait, c'est toute une réflexion stratégique de quand que tu veux développer justement un quartier pour... du commerce de détail, ben ça va être qui tes locataires puis quel type de synergie tu peux leur offrir. Ensuite de ça, tu as les centres commerciaux spécialisés. Donc là, tu as les Power Center, Factory Outlet, Lifestyle Center. Donc, on connaît bien, c'est le 1030. Ça allait directement sur le site web du 1030. Vous allez voir, c'est clairement indiqué que c'est un Lifestyle Center. Ensuite de ça, tu as les centres commerciaux hybrides. Donc, ça regroupe des types de commerce traditionnels et types de commerce spécialisés. Et finalement, tu as les centres à usage mixte. Donc, c'est vraiment les bâtiments qui vont avoir une mixité d'usages. Donc, on va retrouver espace à bureau, commerce de détail, des différents moyens de transport qui vont aller là, habitation collective, par exemple, ça peut être des condos, ça peut être une habitation locative. Donc, ça va être vraiment un mix.
Ça a la cote, ça, quand même, actuellement, dans la construction neuve, là.
Ouais, clairement, il y a... Tu sais, à Montréal, on a, par exemple, le projet Humanity, qui est un projet à usage mixte. Mais oui, c'est clairement, il y a de plus en plus de projets comme ça où est-ce qu'on veut vraiment créer une synergie de vie. On veut vraiment créer un environnement de vie à travers même le bâtiment. Ensuite, on a les catégories de bâtiments industriels. Donc là, ça va se catégoriser en le manufacturier lourd, le mix et les entrepôts. Donc pour ce qui est du manufacturier lourd, c'est vraiment les espaces industriels où est-ce que tu vois pas vraiment le bâtiment, là, t'sais, c'est vraiment des grosses usines de fabrication, puis c'est là que toute la machinerie est entreposée, et c'est principalement tout ce qui est la grosse mécanique, en fait, qui va se retrouver là. Ensuite, dans le mix, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais les flex buildings, donc où est-ce que tu as vraiment un mix d'entreposage, de services administratifs, de montage. Bref, tu as plusieurs configurations pour utiliser cet espace-là. Et finalement, tu as les entrepôts, qui eux, bien sûr, plus en plus populaires pour tout ce qui est stockage de beaucoup de matériel, tout le commerce en ligne qui exige beaucoup d'espace de stockage pour livrer les biens le plus rapidement possible. Ensuite de ça, on rentre dans les habitations collectives. Là, peut-être que ça s'adresse à plus de gens puisque les habitations collectives sont beaucoup plus accessibles que les autres types de classe d'actifs. Donc, évidemment, dans les habitations collectives, on va les regrouper en 3 segments. Donc, tu as les petites densités, moyennes densités et les hautes densités. Et pourquoi je mentionnais que c'est un petit peu plus accessible, c'est que, évidemment, chaque type d'actif a son niveau de risque Et t'as des barrières à l'entrée qui sont différentes. Donc, par exemple, pour les espaces à bureau, au commerce de détail, ben, tu sais, juste au niveau bancaire, tu vas avoir des types de financement différents selon le type de locataire, le lieu et la catégorie, en fait, du bâtiment. Alors que dans les habitations collectives, ben, c'est un petit peu plus...
standardisé.
C'est beaucoup plus standardisé, ouais. Exactement. Donc, les barrières sont beaucoup moins grandes. Dans les petites densités, ben, c'est principalement tous les petits bâtiments qui nécessitent, qui n'ont pas de services ou d'équipement. Ça va être principalement des ensembles immobiliers où est-ce que tu vas avoir accès en fait à ton logement directement par une porte extérieure.
Le multilogement standard, par exemple.
Multilogement standard. Fait que t'sais, encore là, ça peut être aller jusqu'à un 24 logements. Tu peux avoir un 24 logements où est-ce que tu peux avoir quelques heures en commune, mais. C'est le fait qu'il n'y ait pas de service.
Qu'il n'y ait pas de gym, pas de piscine.
Pas de gym, pas de piscine.
Pas d'air commun, collectif.
Exactement. Donc là, on va plus les appeler de petite densité et on parle habituellement de bâtiments maximum 4 étages. Donc ça va être principalement structure de bois-briques. Et souvent, on va retrouver plusieurs bâtiments en lots différents. Tu sais, mettons, tu vas acheter une rue complète juste pour faire des 6 logements. Ensuite de ça, on a les moyennes densités. Donc, c'est principalement des bâtiments, eux, qui incluent quelques services. Et là, on parle plus de 5 à 9 étages. On va retrouver beaucoup de ce type de structure-là en acier. Et on parle de bâtiments qui peuvent aller de 30 jusqu'à 110 logements. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce que vous faites un bâtiment de 32 logements que ça devient automatiquement une moyenne densité. C'est que c'est pas des critères qui sont coulés dans le béton. C'est encore là plusieurs facteurs. Donc, on a tout ce qui est architecture, type de structure, la localisation, c'est quoi la densité, le secteur qu'on investit, quelle est sa densité. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte pour être vraiment capable de classifier. Donc, ça, c'est vraiment des barèmes en tant que tel. Et finalement, on finit avec les habitations de haute densité. Donc, c'est vraiment des bâtiments qui vont dépasser normalement 9 étages, qui vont être dans des milieux urbains à très, très forte densité. Et là, on va retrouver beaucoup, beaucoup de services. Donc, gym... ascenseur, tu vas avoir des services de conciergerie, tu vas avoir un spa, sauna. Donc là, tu es vraiment un inventaire de services que tu peux avoir accès. Et un autre point aussi qui est intéressant à mentionner dans les habitations collectives, c'est que là, on les a catégorisés vraiment en petite, moyenne et haute densité, mais tu as aussi des catégories de niche. Peuvent être vraiment intéressantes à regarder. Donc, la première, c'est les habitations pour étudiants. Donc, nous-mêmes, notre portefeuille d'investissement immobilier, on a commencé avec ce type d'actifs-là. Donc, il y a un niveau de difficulté qui est différent que si tu as juste des types de locataires qui ne sont pas étudiants. Mais il y a aussi une opportunité avec ce type de produit-là. Donc, ça peut être une stratégie. Ça peut être dire, moi, je veux juste acheter dans le segment habitation collectif je vais principalement acheter des bâtiments parce que c'est des locataires qui sont étudiants. Ensuite, on a des habitations militaires. Donc, c'est dédié à la location de personnes qui vont à l'armée près des bases militaires. Et tu as des habitations corporatives qui, eux, sont vraiment dédiées aux entreprises. Donc, c'est principalement des produits qu'on va retrouver qui sont tout meublés, tout inclus, haut de gamme. Donc, c'est dans les entreprises qui vont louer ces espaces-là pour leurs employés, puisqu'ils ont beaucoup d'employés, beaucoup de va-et-vient.
Puis souvent, c'est des relocalisations temporaires, une affectation de poste pendant 6 mois, fait qu'ils vont leur permettre d'avoir un emplacement, une résidence. C'est un peu ça?
Exactement ça. C'est vraiment très, très temporaire. C'est vraiment c'est comme un genre d'hôtel haut de gamme, mais cool. Tu loues vraiment plus sous forme de loyer.
De bail annuel. Là.
Exactement, oui. Et finalement, la dernière catégorie, puisqu'on ne fera pas la catégorie... hôtel, qui est vraiment une catégorie très, très, très de niche, c'est la catégorie des résidences pour personnes âgées. Donc, là encore là, tu as 5 autres catégories. Donc, tu as la catégorie Independent Living. Donc, c'est des appartements qui, eux, sont situés vraiment dans des communautés où est-ce que les services ne sont pas inclus, mais qui sont à la carte. Ensuite de ça, tu as les Independent Living Service. Donc, même chose que le dernier, sauf que là, tu as vraiment accès à du service. Donc, tu as le personnel d'assistance qui est là pour t'aider. Après ça, tu as le Assisted Living. Donc, ça offre les mêmes services que celui où est-ce que tu as un lieu avec un personnel d'assistance. Mais là, c'est vraiment 24 heures sur 24. tu as des infirmières, infirmiers, tu as une supervision médicale, en fait, qui est présente. Ensuite, ça, t'as le Memory Care, donc c'est les mêmes services que le dernier, donc un service d'infirmières, infirmiers, médecins 24 heures sur 24 avec une supervision vraiment accrue, mais pour les gens qui sont atteints de démence. Et finalement, le dernier, c'est le Long Term Care. Ça, c'est vraiment des lieux qui sont financés par le gouvernement.
Fait que, tu sais, si on ramène ça en québécois, c'est autonome, semi-autonome, non-autonome, Alzheimer,
fin de vie.
Puis fin de vie, effectivement.
Exactement ça. Donc,
puis chacune de ces catégories-là aussi a son lot d'avantages et d'inconvénients selon le type de profil d'investisseur qu'on va vouloir avoir ou attirer par rapport à tout ça. Là.
Exact. Puis pourquoi c'est intéressant de savoir toute cette segmentation-là? C'est qu'avant de se lancer en immobilier, c'est de comprendre que chacun de ces segments-là a ses risques et opportunités. Et c'est de déjà d'être capable de si vous avez des investisseurs, même si vous êtes seul, d'être capable d'enligner bien, sur quel type de stratégie que vous voulez investir. Donc, est-ce que vous voulez principalement dans l'espace à bureau, commerce de détail, les habitations collectives, les résidences de personnes âgées? Donc, c'est vraiment de savoir quels sont les types de classifications. Et évidemment, quand on va plus loin, parce que là, on n'a pas le temps de tout aborder, tout le rouage derrière chacun de ces segments-là, mais quand on va plus loin, bien, évidemment, au niveau bancaire, il va y avoir des grosses, grosses différences au niveau du financement. Même les perspectives de rendement vont être différentes. Donc, c'est tous des critères qui sont à prendre en considération.
C'est intéressant parce que c'est sûr qu'on peut se dire que pratiquement 99% des gens qui disent « Let's go, je me lance, je fais de l'immobilier », ils se décident à un party de Noël. Naturellement, ils vont aller vers le multilogement ou l'habitation collective
standard,
vraiment. Alors que peut-être que des fois, on devrait prendre juste une petite réflexion pour dire « L'immobilier, c'est très large, dans le fond. » On vient de nommer au moins 15 à 20 types d'investissements qu'on peut faire dans l'immobilier.
Exactement.
Puis on n'est pas toujours obligé d'être quelqu'un qui a énormément de vécu ou de richesse pour commencer dans ces différentes avenues-là. Évidemment, comme tu dis, le financement est plus connu, plus standardisé dans le multi-logement, mais ça n'empêche pas de se rendre compte que son profil d'investisseur nous amène vers différents
ça amène une clientèle différente aussi, là, parce que, tu sais, par exemple, le commercial, on n'aura pas les mêmes droits, on n'aura pas la même clientèle, par exemple, que...
Les mêmes lois, pas de régie.
Exact, que des immeubles multifamiliales où ce que là, on va avoir des locataires, la régie du logement, puis on va devoir se conformer à une réglementation gouvernementale, tandis que dans le commercial, ben, on peut établir nos différentes règles. Fait que, tu sais, c'est selon notre zone de confort qu'on peut faire avec ça. Puis, je trouve ça vraiment intéressant que tu nous donnes quelques typologies là, de l'immobilier commercial, parce que souvent, on dit que c'est du commercial, mais tu sais, c'est du commercial mix, c'est-tu du multilogement? Ouais. Vers où qu'on s'en va avec ça? Fait que c'est quand même intéressant.
Soyons précis.
Ouais, soyons précis dans ce qu'on dit. Puis, pour parfaire notre éducation, on peut faire comment pour te rejoindre, Kevin?
Eh bien, directement, notre page Facebook de KP Management. Donc, on a une équipe qui est en place pour répondre à toutes vos questions. Et éventuellement, ce type d'informations-là, on va pouvoir évidemment le faire circuler. Et bien sûr, il y a tout ce que je viens de vous mentionner là, il y a des sources qui sont attribuables à ça. Donc, vous pouvez fouiller dans différents bouquins sur la littérature d'investissement immobilier où est-ce que vous allez tout retrouver ces informations-là.
Puis, on peut communiquer avec toi directement sur Facebook. Vous avez un site Internet qui est...
Oui, on a un site Internet qui est kp.management. Donc, il n'y a pas de .com. Le .management est le .com. Et vous avez directement là toutes nos entreprises qui sont présentes et tout simplement cliquez par exemple sur notre société KPM Valeurs Immobilières parce qu'on offre des services de gestion immobilière, de services conseils. Et voilà, vous pouvez nous contacter directement sur site web, Facebook, sur LinkedIn et Instagram.
Good, merci beaucoup pour ta présence. On est bien hâte à notre prochaine chronique. Passe une belle journée.
Merci, monsieur.
Bye bye. Hey.
This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour early in the morning. Wake your goat mouth ass up. This is
96.9
FM on your dial, and we're flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there.
Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play.
You are tuned in to
96.9,
the station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only.
straight west coasting with you on this one, showing Cali love straight from the west side.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
T'es un beatmaker ou un producteur de trap musical? T'aimerais faire de l'argent en joignant notre équipe de producteurs indépendants et vendre tes productions en ligne? Contacte Quasar Productions. Le son à ton image. Q-U-A-S-A-R Productions.ca.
Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et Robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, préassemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie combinés à un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88-836-6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails.
Saviez-vous que lorsque vous encouragez
Isabelle
de la pizzeria du coin en commandant une aldresse, vous encouragez aussi
Anne,
boulangère du Vieux-Lévis, qui fournit la pâte dont la boulangerie a été complètement rénovée par Marc, entrepreneur qui a acheté sa scie dans sa quincaillerie préférée sur Président Kennedy. Et ses lames sont fabriquées par
Patrick, Jean
et
Alex,
qui travaillent aussi à Lévis. Encourager l'achat local, ça encourage tout le monde. Inspirez-vous sur meilleuralévis.com.
Les restaurants Barbies vous invitent à venir profiter de notre promotion du menu 2 pour 30 à emporter. De la part de toute notre équipe, le restaurant Barbies de Lévis et de nos deux succursales de Québec, on vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de vous servir.
Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait leur achat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnel.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jeanfrançoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
CJMD, talk, rock and hip-hop.
Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h.
À CJMD 96.9, l'Alternative Radio.
Bienvenue aux chroniques de KP Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin!
Salut Jeff!
Salut, salut Kevin, ça va bien?
Ça va super bien. On aime ça les chroniques, on aime ça apprendre plein de trucs par rapport à l'immobilier. Puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça. Puis on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente, mais... Est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais tu sais, c'est pas grave, le vendeur va me signer un papier on the side, puis il va me faire une balance, puis je vais le rembourser plus tard. » Y a-t-il des bonnes façons de procéder puis des mauvaises façons de procéder?
Bien, effectivement, il y a différentes manières de structurer la garantie d'une balance de vente. C'est certain que si la balance de vente, par exemple, elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens, c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente. Et le point est simple, c'est que le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. Je veux dire, c'est elle qui met directement la dette senior sur... sur
c'est
vos
lui
actifs.
Qui fait la plus grosse balance.
Ben, c'est en quelque sorte, c'est lui qui fait le plus gros prêt. Et à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher à son directeur de compte, c'est une faute de bonne politique, à mon sens.
Mais est-ce que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière va avoir une réticence à vouloir prêter parce qu'il y a une balance?
Est-ce que la RCD va exploser?
Ben oui, clairement. L'institution financière n'est pas là pour prendre du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Donc, c'est certain que la balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment le risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur, de savoir s'il y a, par exemple, un besoin d'injecter ou s'il y a besoin de rembourser la balance de vente, est-ce qu'il a la capacité financière de le faire? Et si la réponse est non, ben c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en mise de fonds de ses propres capitaux la partie qui était censée être financée par le vendeur.
Puis justement, si ça devient souvent une barrière, le RCD, comment on peut l'aborder justement? Comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer ou du moins... contrôler la façon de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties, là.
C'est sûr que le banquier, ben, deux choses. Première des choses, il va analyser principalement le ratio de couverture de la dette. C'est sur ce critère-là qui va vraiment qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation de l'actif, c'est lui qui va être payé en premier. Mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la manière que moi, je favorise pour la structurer, c'est plus d'aller sur une hypothèque mobilière. Donc, c'est de donner en garantie les actions de la société, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100% de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'on démontre au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète l'immeuble avec toute notre mise de fonds et par la suite, ben le vendeur, tout ça se fait directement chez le notaire, le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société. Encore une fois, il y a plein de manières de structurer, il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suggère évidemment d'en parler à son directeur de compte, de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte, tu sais, de ton côté, que tu ne te sens pas trahi, tu ne te sens pas qu'on t'a caché de l'information et que tu ne le juges pas comme étant un risque supplémentaire à ton prêt.
Parce que de la façon que tu viens de l'amener là, ça n'a pas d'impact sur le ratio de couverture de dette, je comprends bien. C'est monté de cette façon-là.
Ben, c'est parce qu'en réalité, ça devient comme un prêt privé à la société. Exactement ça.
C'est pas
ça.
Dans l'achat de l'immeuble même, vu que au jour du notaire, tu as effectivement la mise de fonds complète, par exemple 25% si tu étais conventionnel. Là.
Exactement. C'est sûr que il y a tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Mais en effet, c'est pas dans... On démontre qu'on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, ben, on décide qu'une partie de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, il y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée. Mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique de votre relation politique avec votre directeur de compte. Et de voir comment il est confortable avec ça. Comment est-ce qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne, pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt. Je respecte tes ratios en termes de capacité d'emprunt, mais une fois qu'on a fait la transaction, ben moi, je veux avoir un prêt privé du vendeur avec les liquidités qu'il a eu de la vente.
Fait que là, tu es en train de dire que dans la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin avec votre conseiller financier, ou t'sais, votre banquier ou peu importe. Puis par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est cachez-le pas, parce qu'on veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu veux pas non plus être pénalisé par rapport à ça. Puis tu veux pas te faire rappeler ton prêt à cause...
Non, parce que c'est considéré comme une fraude hypothécaire. Si tu ne déclares pas quelque chose au banquier qui aurait eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Je sais que peut avoir une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner, puis de faire un genre de prêt caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le risque. si vous écoutez cette capsule-là et que vous faites ça, je veux dire, ça ne fait pas de vous d'une mauvaise personne. C'est juste d'être conscient du risque que vous prenez et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier qui est l'institution financière. Et nous, dans toute l'histoire du portefeuille, de toutes les transactions qu'on a faites, la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner, c'est hallucinant. Donc, servez-vous-en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour vous lui conter des histoires, il n'y a pas toujours le doute de dire « Ah, il est-tu en train de me mentir? Il est-tu en train... Il y a-tu quelque chose qu'il ne me dit pas? » Puis en réalité, là, tout ce qu'il veut, c'est avoir son prêt. Donc, développer vraiment une bonne relation avec ce trait. Non, c'est pas un bon feeling.
Qu'est-ce que tu veux avoir avec ton banquier, justement, c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire affaire avec toi, puis trouver des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais, au final, tout le monde va être gagnant dans une situation comme ça.
Votre directeur de compte, il est là pour aller battre votre dossier auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, en effet, si vous développez une super bonne relation avec, et qui, il ou elle, a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record, puis que, justement, vous faites bien les choses, bien, ça va vous favoriser, parce que, veux, veux pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'interne au niveau des banques, là.
Puis, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, mettons, on se ramène à notre auditeur là, qui nous écoute, qui a le goût de faire un investissement, ça se peut-tu, en 2020, de monter une balance de prix de vente? Parce que dans l'exemple que tu donnais tantôt de venir s'hypothéquer sur la valeur immobilière de la société. Si tu t'es créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, finalement, c'est juste une boucle. Là. Je veux dire, tu n'auras pas plus de prêts en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Fait qu'est-ce que, dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire?
Bien, ça se monte encore. C'est sûr qu'il faut aborder l'aspect de la dette senior dessus. Donc, si vous êtes évidemment dans une dette SCHL, ils vont vraiment pas démordre du ratio de couverture de la dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, bien là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Mais oui, ça se monte encore. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de couverture de la dette. Mais mettons qu'on oublie un prêt assuré par la CHL, qu'on reste juste dans un prêt conventionnel, bien, toute la notion de force de l'emprunteur, la capacité de réinjection de l'emprunteur, toute cette notion-là financière de la société et de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte. Et évidemment, si vous faites des joint ventures, vous avez plusieurs partenaires, bien, si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte, bien, ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même aller chercher des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires. Donc, si vous êtes capable de démontrer que bien, si on n'arrive pas justement à, si l'immeuble n'arrive pas à supporter son service de la dette, son paiement hypothécaire, bien, nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la valeur nette en plus de tout, parce que notre valeur nette excède X montant le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? Il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un ratio de couverture de la dette déficitaire, et le crédit pourrait... Une bonne caution. Le crédit pourrait évaluer, bien écoute, oui, mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque, clairement.
Donc, ça se fait.
Ben oui, ça peut se faire. Et moi, le point, c'est surtout c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Puis, je veux dire, rendu là, c'est la manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est correct pour eux.
Mais si tu magasines une nouvelle adresse à chaque financement aussi, ça peut être périlleux. Là. Ça peut être difficile de monter une relation puis de justement arriver à des situations où tu es capable avec ton partenaire financier de sillonner au travers des possibilités si à chaque fois tu dois changer parce que tu en as passé une
exactement en ça. Québécois. Là. Oui, et je vous dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé de bâtir cette relation-là avec notre banquier que ça nous a nuit. Donc oui, des fois, c'est non. Mais il t'arrive
plus. Ça commence par un nom.
Ouais, ça commence par un nom, mais c'est arrivé plus souvent de oui. Puis à un moment donné, la relation qu'elle se forge, ton directeur de compte qui a vraiment confiance qu'il est en train de bâtir une relation de transparence puis qu'il a toutes les données, bien, il a le goût d'aller se battre pour toi. Il a le goût d'aller se battre pour ton dossier. Puis c'est la même chose pour le courtier hypothécaire, là. Que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte. Donc, d'avoir cette relation-là de transparence, je pense que c'est primordial en affaires, que ce soit avec votre. C'est pas parce que c'est une institution financière. Oui, vous dealez avec l'institution financière, mais ultimement, vous dealez avec la personne qui est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence et de dire les vraies choses. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos projets.
Puis au niveau fraude hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être interprétée de cette façon-là? T'as-tu des guidelines que ça, faut pas faire ça, ça, faut pas faire ça, etc., etc.?
Ben, c'est sûr que, de exemple, une balance de vente...
Qui pas déclarée.
Ben, non déclarée à l'institution financière, puis qu'il y a comme un arrangement, tu sais, exemple...
En contre-lettre?
Ouais, en contre-lettre. T'as un notaire qui fait l'acte hypothécaire, t'as un notaire qui fait l'acte de vente, puis tu sais...
Tu devrais te croire aussi qu'il y a le deuxième rang qui se place derrière, finalement, les autres reçoivent une liste quelques jours après.
Oui, ils ont un avis
d'adresse.
C'est ça, il y a un avis d'adresse, exactement, au registre foncier. Fait que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un flasher. Mais là, on parlerait plus de balance de vente qui est sous écrou, là, donc qui est non enregistré. Puis là, le notaire, par exemple, va garder ça, puis il va se dire, ben écoute, on a une liste de... j'ai une liste de critères qui fait que si, exemple, l'acheteur ne respecte pas ces critères-là, ben là, je vais enregistrer la balance de vente, puis le vendeur va être protégé. Mais il ne faut pas oublier que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne, ben, je veux dire, c'est le moment qu'il y a l'inscription que ça s'enregistre au registre foncier, là. Donc, la personne, exemple, on déle ensemble une balance de vente sous écrou.
Oui.
Et deux ans plus tard, j'ai toujours un seul premier rang qui est l'institution financière. Deux ans plus tard, je respecte pas les critères, puis je suis en problématique financière. Puis là, j'ai un GF. J'ai dit, GF, on fait un prêt, je suis là dans le deuxième rang à mon immeuble. Mais là, GF, s'il se prend un deuxième rang, toi, là, ça fait deux ans que tu m'as fait le prêt, qu'on s'est entendu. Mais si tu enregistres, tu vas tomber en troisième rang. Tu tomberas pas en deuxième rang parce que lui, il l'enregistrait avant toi. Donc, cette notion-là de premier arrivé, premier servi. Donc, évidemment, pour le vendeur, ça peut être un plus gros risque. Mais au-delà de ça, parce que les deux parties ont pris une entente ensemble, je pense que c'est plus d'aborder le volet confiance, le volet transparence, d'avoir une bonne relation avec son directeur de compte et son courtier hypothécaire.
Puis il me vient une question vraiment, on va dire, think outside of the box, mais ça se peut-tu que quand tu montres justement une balance de prix de vente avec ton financier, ça soit une possibilité de d'amener l'idée d'avoir, un, par exemple, un taux plus élevé pour compenser... compenser justement ce risque-là qui serait plus élevé vu qu'il y a plus de leviers.
Ben c'est sûr. Mettons, que si on augmente le taux, on va augmenter...
le service de la dette.
Oui, ouais, c'est ça. Ça va augmenter le service de la dette. Par contre, ce qui peut mais être
eux,
fait...
c'est un risk return qui est plus fort. Dans le fond, ils ont plus d'intérêt sur...
Oui, mais en même temps, lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche. Il veut être payé.
Oui.
Moi, je pense que j'irais plus sur... exemple, on met dans un compte en fidécommis un montant qui équivaut à un an de service de la dette. Fait que, exemple, on estime que ça va être 6 000 $ de paiement hypothécaire à tous les mois. Ben, je te mets tout de suite dans un compte 6 000 $ x 12, je te le mets, il est gelé, puis il va rester là aussi longtemps que la balance de vente n'est pas remboursée. Donc, okay. Tu sais, ça peut sembler farfelu, mais...
Comme un dépôt de garantie.
Ouais, comme un dépôt de garantie du banquier, mais regarde, je te couvre déjà 12 mois de paiement hypothécaire que tu vas pouvoir te servir comme que tu veux. Donc, je ne dis pas que les crédits vont tout approuver ça, puis que c'est la solution magique. Je dis juste que c'est d'être capable de réfléchir avec son directeur de compte à une solution pour que lui puisse gérer son risque. Parce que lui, il est là pour ça. Puis en même temps... Gérer son risque au directeur de compte, c'est gérer le vôtre aussi. Donc, faut pas le voir comme le méchant qui veut pas me prêter,
un compétiteur ou un gars qui croit pas au projet.
Non, non. Plus on utilise le levier, plus on se met nous-mêmes à risque. Oui, exactement. La banque, mais la personne qui a le projet aussi. Là,
c'est de comprendre vraiment la réalité de l'ensemble des parties prenantes et le banquier, le courtier hypothécaire, l'institution financière qui vous finance est une partie prenante qui est cruciale dans un projet. Et encore là, imaginez que vous êtes structuré différemment, vous êtes principalement structuré en équité, par exemple, vous avez moins de dettes, ben c'est la même chose. Est-ce que vous cachez de l'information à vos actionnaires? Est-ce que vous cachez de l'information à vos investisseurs? Est-ce que vous allez cacher la nature, ce qu'on appelle en comptabilité la prééminence de la substance sur la forme? Là? Donc, c'est pas parce que, d'un point de vue juridique, on s'est entendu que au niveau de la forme, ça fait vraiment du sens. Donc, la vraie, l'intention économique derrière... Est-ce que je dois la déclarer, même si d'un point de vue juridique, elle fait du sens? Eh bien, c'est la même logique. T'sais, je veux dire, si tu as des investisseurs, des actionnaires, on déclare la vraie substance économique d'une transaction, dépendamment du risque qui est associé à celle-ci. Et donc, moi, c'est tout simplement ça, c'est d'aborder justement cette transparence-là du même sens, autant que ce soit un banquier, que ce soit un actionnaire, un investisseur.
Good. Consentement clair.
Fait que la balance de prix de vente, c'est un avantage de l'utiliser de la bonne façon, de le divulguer puis de le déclarer aux gens.
Oui, exactement. Évidemment, il y a toujours, tu sais, je veux dire, c'est le monde ne sont pas nécessairement pour faire les cadeaux. Donc, c'est pas toutes les institutions financières qui vont être ouvertes à ça. Il peut y avoir aussi des courtiers immobiliers qui comprennent pas comment structurer une balance de vente. Il peut y avoir plein de facteurs qui jouent contre vous. Moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de vous entourer d'une part des bonnes personnes et de réfléchir à votre approche. Réfléchir à votre approche, d'évaluer évidemment votre directeur de compte. Est-ce qu'il est habitué avec les balances de vente? Est-ce que lui, ça lui fait une peur bleue puis il faut même pas lui dire le mot parce qu'il part en courant? Tu sais, je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Je dis pas que parce que vous la déclarez que vous êtes 100% transparent que tout va bien se passer. Je dis juste que
c'est la meilleure façon de faire.
Moi, à mon avis, il y a une bonne manière de faire les choses. Il y a une manière, après ça, en business, de faire les bonnes étapes, de dire les choses au bon moment. Puis c'est à vous aussi, comme investisseur, de faire les bons calculs initialement pour savoir bien, qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que en mettant une balance de vente, mon ratio de couverture à dette tombe à 0.60, 0.50 et ça vaut même pas la peine d'en parler à mon banquier. Il va me dire non, c'est sûr.
Ouais.
Mais il y a une limite raisonnable à toute chose. Là.
C'est ça. On comprend que c'est l'immobilier, des fois, il y a des zones grises, des endroits que ça griche, qu'il faut pousser, mais il faut travailler avec le consentement en fait de notre partner qui est justement
exactement.
Financier et non dans son dos. Là.
Exactement ça. Là. Ouais.
Puis, Kevin, si jamais on veut avoir plus d'informations ou on aimerait te contacter, de quelle façon qu'on peut le faire?
Vous pouvez aller directement sur notre site web kp.management. On a, sur ce site web-là, ça présente l'ensemble de nos sociétés ou bien via Facebook, LinkedIn, Instagram.
Merci, Kevin. Merci Kevin.
Merci, les gars.
Bonne journée, tout le monde.
Hey, yo, what's poppin'? Ici Skies de Rap Academy. Vous écoutez l'Alternative Radio, CJMD 96.9. Yeah.
CJMD, l'Alternative Radio.
Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. Wow.
La radio de Lévis.
Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. ProgExpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, OCELOT-POS.com ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Hey.
Tous les dimanches, 3h PM, on donne 2750$ à CJMD.
Même pas 12$ pour participer.
Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo. 2750$ toutes les semaines, seulement avec CJMD.
Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéales pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité, ils aimeront assurément jouer. top30jeux.com.
Cette année, pendant les fêtes, si t'as eu congé à Noël et au jour de l'an, si tu t'es pas barré le dos en pelletant l'entrée, si le shop a fait tomber le sapin, si ta commande de cadeaux a été livrée à temps, si dans tes soupers virtuels, grand-papa s'est connecté du premier coup, si t'aimes tous les cadeaux que t'as reçus, si ceux que t'as achetés à dernière minute à la pharmacie ont vraiment scoré, si personne s'est sauvé de la vaisselle, s'il n'y a pas eu de chicane, même pas une petite chicanette, puis si à la fin de tout ça, t'as pas eu d'indigestion, t'as pas eu mal aux cheveux, puis t'as pas pris une livre, même pas une petite livrette, ben là, je sais pas moi. Tu devrais peut-être acheter un 649. Hop, joyeuse fête!
Les dimanches, à CJMD, c'est Talk and Bingo! Dès 9h, l'Expresso Weekend. De 13h à 15h, les technopreneurs. Dès 15h, un jeu qui a traversé 4 siècles. Le Bingo! Suivi du Chico Show. Les dimanches, à CJMD, on te remplit la tête, mais on te remplit aussi les poches. CJMD, Talk, Rock and Hip-Hop, la meilleure alternative.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9, l'Alternative Radio.
Salut tout le monde, on est au Chronique KP Management avec Kevin Pépin. Comment ça va, Kevin?
Ça va bien, Jeff. Et toi, Kevin?
Yes, sir. Toujours.
Deux Kevin dans la pièce aujourd'hui.
Pour le prix.
Toujours en minorité. toujours pareil bon. Dans nos familles. Hein, maintenant, on est en minorité dans nos familles, Kevin.
Ouais. Ouais.
Avec trois enfants, ça va vite. Puis quand on va à l'épicerie ou quoi que ce soit, ben c'est les trois autres qui viennent.
Ouais, la journée passe vite.
Kevin, on a parlé de divers sujets. Aujourd'hui, on va parler de la modélisation de son équité. C'est quoi ça, la modélisation de l'équité?
Ben, en fait, l'équité, c'est, ça veut simplement dire votre valeur nette. Donc, quand vous faites de l'investissement immobilier, vous avez la valeur de votre immeuble plus toutes les dettes associées à l'immeuble. Ce qui reste à la toute fin, donc les actifs moins les passifs, eh bien, c'est l'équité, c'est la valeur nette. Et cette équité-là va croître à chaque année. Donc, puisque vous avez vous avez des opérations, vous continuez d'encaisser des revenus, vous continuez d'augmenter vos revenus, vous avez des dépenses des dépenses d'opération de votre immeuble, eh bien, il va y avoir un bénéfice annuel qui va faire augmenter votre équité. Mais cette équité-là comment est-ce qu'on est capable d'apprendre à la modéliser? Comment est-ce qu'on est capable de la décomposer? Donc, par exemple, vous pouvez avoir un portefeuille de placement immobilier de 10 millions de dollars. Puis on prend le scénario du premier portefeuille de 10 millions de dollars où est-ce qu'il génère, par exemple, 300 000 de liquidités annuelles, donc il génère un 3 %. Ensuite de ça, vous avez un 600 000 de capitalisation, donc un 6 % de capitalisation, et prêt générer après ça un autre 5 %, donc un autre 500 000 de gains de valeur. Donc, on voit que la composition du bénéfice que génère cette équité-là est beaucoup plus illiquide que liquide. Et ce qui est intéressant en modélisation, quand on travaille avec des métriques de base qui gouvernent autant la partie bancaire, la partie marchande et la partie opérationnelle, on est capable de le modéliser et de bâtir des portefeuilles d'investissement immobilier avec des décompositions de rendement qui sont différentes.
Puis à quel point on veut le rendre liquide, notre rendement? Pourquoi le rendre liquide?
Bien, évidemment, je pense que...
Si, mettons, le liquide nous suffit dans ton exemple. Disons, on a un portefeuille de 10 millions,
ouais.
On reçoit 300 000 par année, ça suffit à nos besoins. Pourquoi faire des démarches pour le rendre plus liquide? Puis à quel point on doit avoir cette cible-là?
Bien, c'est sûr que, tu sais, t'as bien beau avoir de liquidité immobilière, ça reste que la valeur existe vraiment quand tu l'as vendu, là. Donc, ouais. C'est une problématique en immobilier, c'est que c'est à la base un actif qui est illiquide. Donc, demain matin, tu préfères des valeurs de liquidation, des valeurs marchandes, tu as aussi des valeurs de liquidation. Mais pour vraiment encaisser ta valeur marchande, il faut que tu passes dans le processus de vente du marché. Et pourquoi qu'on veut faire ça? C'est qu'on veut être capable d'analyser la performance de cette équité-là et de bâtir aussi une équité qui répond à nos besoins d'investissement. Donc, je me souviens quand j'ai commencé en consultation en immobilier, j'avais des clients qui venaient me voir et me disaient « Kevin, moi, je veux avoir... en fait, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. » OK? C'est souvent le cas classique des gens qui veulent investir, veulent se bâtir un patrimoine dans l'immobilier. Ils disent « Moi, là, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. » Fait que là, ils me disaient « On m'a dit que j'avais besoin d'avoir, par exemple, 50 portes. » C'est « OK, mais ça peut... Les 50 portes sont où? » Tu sais, c'est à Montréal, c'est à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, tu sais, parce que l'équité de chacune des portes ne sera pas la même. Et là, plutôt que d'y aller en nombre de portes, je posais plus la question, ben, t'as besoin de comment de liquidité? C'est quoi que t'as besoin? C'est quoi ton coût de la vie à ta retraite? Fait que là, on faisait les calculs, tout ça, puis dire, ben parfait, j'ai besoin, exemple, d'avoir 100 000 $ par année pour pouvoir vivre de l'immobilier à ma retraite. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait à l'inverse. On se disait, parfait. Et là, moi, je sortais mes tableaux, parce qu'on a des tableaux de modélisation à l'interne. Et là, je suis plus capable de dire, ben écoute, si tu veux, admettons, avoir une équité qui génère, mettons, 10 % de cash on cash, donc qui, par exemple, notre exemple de 10 millions va générer 1 million par année, ben ça te prend X nombre de portes financées de telle manière, à tant de dépenses d'opération, avec un taux d'intérêt de temps, puis ça, tu peux aller dans X marché. Puis on est derrière après ça de monter puis de dire, mais finalement, ça te prend pas 50 portes, ça t'en prend peut-être juste 40, mais ces 40-là, c'est du neuf. Donc, si tu prends du used, ça va t'en rendre 70. À cause que, justement, tu vas pouvoir aller mettre une dette qui est moins performante, donc tu vas avoir, par exemple, un service de la dette, un paiement hypothécaire qui est plus élevé, donc tu vas avoir moins de liquidité, donc le bénéfice sur ton équité va être moins liquide. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la modélisation de l'équité, on est capable de vraiment réfléchir et de prendre des décisions d'investissement en fonction de si je place mon argent dans ce projet-là, ça va augmenter mon bénéfice annuel de mon portefeuille. Donc, par exemple, j'ai une équité de 10 millions, je place 2 millions dans un projet, il va me générer 20 % de retour sur l'équité globale, donc liquidité, remise en capital et gain de valeur. Mais si je fais ça, je vais rendre la composition de mon bénéfice total de tous mes placements plus illiquide ou plus liquide. Et là, ça permet vraiment de suivre et de prendre des décisions d'investissement en conséquence. Et les gens seraient étonnés de leur calcul de retour sur équité, seraient étonnés de voir que, même quand ils disent, hey, mon immeuble, il génère beaucoup de liquidité, ouais, mais quand tu le regardes d'un point de vue retour sur équité, il aurait été mieux, en fait, il serait mieux de vendre l'immeuble et simplement d'aller s'en acheter un autre. Donc, c'est là que ça devient pertinent.
Ouais, c'est un peu ça, ma question que je te posais tantôt, à quel point il faut le rendre liquide. Je voulais t'amener voir justement le fait que ta capitalisation, oui, c'est une épargne forcée, d'un sens, mais si tu la ramènes dans tes poches, justement, tu la rends plus liquide, ben, tu peux probablement investir sur un autre projet. Fait que si tu es en phase de croissance, j'imagine que c'est plus intéressant justement de rapatrier tes billes puis de pouvoir générer peut-être en te revirant un pourcentage beaucoup plus élevé que le pourcentage que ton prêt hypothécaire avec ta capitalisation. Là.
Exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que le bénéfice, pas parce que ton retour sur équité est plus illiquide que liquide que c'est une problématique. Tu l'as bien dit, ça dépend de ta phase.
Exact.
T'es où dans ta phase
de croissance. De maturité, c'est ça.
Exactement. Donc, c'est sûr, quand tu bâtis un portefeuille où est-ce que tu fais juste faire de la valeur ajoutée, donc tu achètes juste des immeubles pour créer de la valeur, ben d'aller mettre une dette qui est super optimale puis qui va rendre ton bénéfice super liquide, ça sera pas du jour au lendemain. Il y a un processus à faire et ça peut prendre du temps. Donc oui, clairement, tu peux voir au départ d'un portefeuille d'investissement immobilier. Puis on parle vraiment d'un portefeuille privé, là, pas d'un portefeuille qui va être sponsor de dizaines et de dizaines de millions. Tu peux voir parce que bon, on a des capitaux pour faire un projet. Bon, on fait ce projet-là, notre bénéfice, notre retour sur équité va être beaucoup plus liquide que liquide, mais dans le temps, on va l'amener à X pourcentage. Et ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est que quand tu travailles en modélisation de cette manière-là, c'est qu'après ça, on est capable. Nous, on a une charte qu'on a bâtie à l'interne. On fait juste changer les variables de cette charte-là. On a comme une base de métriques qu'on utilise. Puis avec cette base de métriques-là, on est capable de dire, bon, mais si tu mets toutes ces métriques-là, ben ça va te donner un retour sur équité globale de temps. Puis ta composition va être de temps liquide, temps illiquide, puis temps en capitalisation, puis temps en gain de valeur. Et ça, c'est... en fait, on l'a principalement développé quand on a dû faire des gros projets de construction neuf, où est-ce que là, il fallait être capable d'imaginer un bâtiment qui n'existe pas, puis que tu as juste une image 3D. Fait que tout ce que tu sais, c'est le nombre de portes, tu sais la qualité des logements, et tu as une image 3D. Donc, comment est-ce que tu bâtis, comment est-ce que tu arrives à tes valeurs locatives? Comment est-ce que tu arrives à vendre à tes investisseurs que ce projet-là va donner tant de rendement? Parce que là, tu n'as aucune certitude, tu n'as rien, tu n'as pas de coût de construction. Tu peux savoir dans le marché à peu près comment est-ce que les gens louent, mais c'est pas parce qu'ils louent de cette manière-là que c'est comme ça que tu fasses ton projet. Et c'est là qu'on a vraiment fait de la recherche, qu'on a appris à modéliser notre équité. On s'est bâti une base de métriques qu'on utilise. Et moi, aujourd'hui, tu me donnes un nombre de portes avec la qualité des logements qui sont dedans. Évidemment, le nombre de pieds carrés, là, la superficie du bâtiment. Et on est capable de modéliser jusqu'au complet le projet, puis dire ben dans 10 ans, on estime qu'il va se vendre tel prix, durant les prochaines années, il va générer tant de liquidités, puis voici le return on equity, le retour sur équité de ce projet-là.
Wow! Mais dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que ça enligne la stratégie des gens. Comme dans l'exemple que tu dis, quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, je veux qu'à mes 60 ans, ça assure ma retraite, ben là, mettons que cette personne-là a 40 ou 20 ans, ben sa stratégie va partir de cette modélisation-là, finalement. C'est comme
exactement
un peu le big bang.
Ben oui, c'est parce que tu viens lui dire exactement, ben il faut que tu achètes avec un amortissement, tu achètes tel type d'immeuble à tant de TGA, dans tel secteur, tu lui donnes déjà toute la recette. Tu lui dis, garde, voici la recette, là. Si tu achètes X nombre de portes avec cette recette-là, tu vas avoir X nombre de liquidités average là, pour ce que tu as besoin. Et tout ça passe, et c'est simple, je veux dire, c'est mathématique.
Puis, tu sais, ça doit donner aussi un petit peu de confiance au niveau de l'investisseur, parce qu'il y a des fois que des investisseurs qui vont se starter, qui vont avoir l'impression que toute la liquidité qu'ils vont recevoir va toujours être réinjectée, toujours dans l'acquisition de nouveaux immeubles ou, tu sais, dans les opérations ou quoi que ce soit. Fait qu'en faisant ça, c'est qu'on est capable de savoir, tu sais, le pourquoi puis vers où tu t'en vas. Puis, tu sais, ça doit donner un petit peu plus de courage puis de confiance que qu'est-ce que tu fais va t'amener les résultats escomptés, non pas juste de faire de l'acquisition pour que finalement, tous les revenus qui proviennent de vos acquisitions servent à faire les paiements seulement, mais de pouvoir le modéliser
ça, puis
dans le temps.
Fermer justement l'entonnoir, puis parce que souvent, beaucoup d'investisseurs, je pense, on est tout un petit peu entrepreneurs, puis on est tout excités par les deals, puis on a toujours le goût de s'ouvrir à plein d'opportunités, mais finalement, peut-être qu'il y a des fois, il y en a certaines qui nous mettent des bâtons dans les roues, parce que bon, on était dû, puis on avait le goût d'aller dans l'action. Il y a toujours comme un dosage à faire de rester dans l'action, mais pas nécessairement à tout prix. Fait que si on établit une stratégie par ce genre d'outil-là, ça doit fermer un peu le couloir.
Ben, c'est en ligne. C'est exactement. Bon, parfait, j'ai tel type de bâtiment avec tant de pourcentage de dépenses d'opération, il faut que je les finance de telle manière. Donc, tu as vraiment un blueprint de sur quoi tu devrais juste focus. Et tu vas vraiment arriver, notamment si c'est jamais une boule de cristal, ouais, mais tu vas vraiment arriver au résultat escompté.
Ce qui est le fun, c'est que ça t'oblige à faire ton why, ton fameux why. Tu es obligé de le faire. Ouais. Là, pourquoi j'ai investi, pourquoi je suis en train de commencer ce move-là d'investir en immobilier. Ça devient encore là la base de toute la démarche. Là. Fait que super, vraiment très intéressant.
Merci beaucoup, Kevin. Comment on fait pour avoir toutes ces informations-là ou qu'on puisse communiquer avec ton équipe?
En fait, vous allez sur notre site web kp.management. Vous allez voir, on a toutes nos sociétés qui sont listées. Et vous pouvez nous appeler un numéro de ces sociétés-là. Évidemment, KPM Valeur Immobilière et le numéro, l'entreprise de ce qu'on fait du service conseil en immobilier.
Gestion et service conseil, c'est ça?
Oui, on fait gestion, comptabilité et service conseil avec notre cabinet comptable. Et vous pouvez nous trouver évidemment sur Facebook, LinkedIn et Instagram.
Vraiment cool. Merci encore pour ta disponibilité, de nous donner ton contenu qui est toujours pertinent. Au plaisir de te recevoir sur une nouvelle chronique.
Merci. Vous le savez, à CGMD, c'est talk, rock and hip-hop.
On va faire une petite dernière, là, mais avec plus d'énergie, OK?
CGMD, c'est talk, rock and hip-hop. Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 22h, c'est la meilleure musique de club. Vous avez envie de faire le party? Pas compliqué. Syntonisez le 969FM.ca 96.9 FM Lévis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.